Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous allez voir qu'il y a beaucoup de paraboles. Donc, tôt ou tard, il va falloir arrêter de sauter les paraboles. Hein? De dire, ok, je la connais, celle-ci, je ne comprends pas tout, mais je saute et je passe au chapitre suivant. Mais il va falloir s'arrêter sur les paraboles et les lire, ces paraboles, et les comprendre. Parce que les paraboles parlent de mystères. Et mes amis, nous avons besoin de connaître les mystères. Jésus connaît tous les mystères. Ce n'est pas difficile pour lui parce que Jésus vient du ciel, mais il est venu nous révéler les mystères. Et nous qui vivons sur la terre et qui ne sommes pas au ciel, nous vivons dans le monde naturel. Nous avons besoin de connaître les mystères du monde surnaturel. Amen. Donc nous avons besoin de comprendre les mystères. Et pour comprendre le mystère, donc nous devons comprendre notamment les paraboles. Donc j'aimerais que tout le monde tourne dans Matthieu au chapitre 22. Et nous allons lire ensemble cette parabole. Dans chaque parabole, il y a toujours des points d'interrogation. Donc on va voir là quels sont les points d'interrogation. Ok, il est écrit à partir du verset 22, pardon, du verset du 1, chapitre 22. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, appelle ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu son habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. » Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Gloops. Vous connaissez cette parabole, n'est-ce pas? Et vous en comprenez probablement une certaine partie, et j'en suis sûre, une bonne partie de cette parabole. Mais il y a cependant des mystères et des clés qu'il nous faut avoir pour comprendre véritablement cette parabole. Alléluia. Maintenant, sachez qu'il y a de nombreuses paraboles, mais qu'il y a 7 paraboles sur Israël et les gentils, les païens que nous sommes. Et 7 paraboles fait partie des 7 paraboles sur Israël et les gentils. Maintenant, cette parabole est assez similaire à une autre parabole. Cette parabole qui s'appelle la parabole du festin des noces est assez similaire à une autre parabole qui se trouve dans Luc 14 qui s'appelle le grand souper. Mais ces deux paraboles, aussi proches soient-elles, sont différentes. Elles n'ont pas été données par Jésus-Christ dans le même moment de son ministère, puisque la parabole qui est en Luc 14, qui s'appelle le grand repas, le grand souper, a été donnée tôt dans le ministère de Jésus-Christ. Et c'est une parabole qui montre beaucoup plus d'espoir dans la nation d'Israël. Et Jésus, au début de son ministère, avait encore espoir que la nation et les gens ouvrent leur cœur à Dieu. Et donc, c'est une parabole beaucoup moins sévère que celle-ci, qui a été prêchée donc à la fin, qui a été donnée à la fin de son ministère, quelque temps avant la passion, donc avant la crucifixion. Et cette parabole a été donnée donc dans un endroit très différent, dans la cour du temple, et donc juste avant la crucifixion. Et c'est une parabole ici, là, qui a beaucoup moins d'espoir, qui est beaucoup plus sévère que l'autre parabole, Parce qu'au moment où Jésus donne cette parabole, il n'y a plus d'espoir. En d'autres termes, il sait que les Juifs l'ont rejeté, que les religieux le haïssent et qu'il n'y a qu'une chose qu'il désire, c'est voir sa mort. Donc il n'y a plus d'espoir que son message, pour lequel il est venu pour prêcher à la nation d'Israël, soit reçu par la majorité des religieux et des gens d'Israël. Et donc Jésus va aller à la crucifixion, mais la porte va être ouverte à nous qui sommes les gentils. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, si vous voulez comprendre cette parabole, je vous encourage à prendre des notes cet après-midi parce que ça vous aidera. Ok, donc ça c'était un petit peu pour définir le cadre de la parabole. Et donc j'aimerais bien prêcher sur cette parabole, mais je ne pense pas que je vais pouvoir prêcher, mais je vais pouvoir par contre l'enseigner. Ok, donc nous avons dans cette histoire, nous avons un roi. Et ça, je suis sûre qu'à ce stade-là, vous avez tous compris qui était le roi. Hein? Faites-moi un sourire. Vous n'êtes pas à l'école là, hein? Faites-moi un sourire. Ok, donc il y avait un roi qui règne sur un vaste royaume. Mais maintenant la Bible nous dit qu'il n'est pas simplement un roi. Parce qu'il nous dit que ce roi, il a un fils. Donc ce n'est pas simplement un roi, c'est un père. Alléluia. Et bien sûr, ce roi représente Dieu le Père qui a un fils bien-aimé. Et ce père, il aime son fils. Maintenant ce père, ce roi, il prépare un mariage. Maintenant, dans la Bible, le premier Adam, lorsqu'il a été conçu et qu'il a été façonné par Dieu, la Bible dit qu'il était là, il avait la domination dans le royaume, il avait la domination dans le jardin, mais Dieu a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et donc à ce premier Adam, Dieu lui a donné une épouse. De la même façon, au deuxième Adam, puisqu'il n'est pas bon qu'il soit seul, le deuxième Adam, de façon très identique, Dieu lui a préparé une épouse. Et nous savons bien sûr que le deuxième Adam est Jésus-Christ. Maintenant, nous avons besoin de comprendre que Dieu le Père prépare à son fils une épouse. Cette épouse sera constituée de ceux et de celles qui auront accepté de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, qui se seront sanctifiés et qui auront fait un certain nombre de choses dans leur vie qui leur permettra de devenir l'épouse de Christ. Et moi, j'aimerais simplement vous dire cet après-midi qu'il vaut mieux faire partie de l'épouse de Christ. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes mes amis, alors j'aimerais vous dire qu'il vaut mieux faire partie de l'épouse de Christ. Parce que tout le monde ne sera pas l'épouse de Christ. Je sens qu'on va avoir des silences aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Ok. Donc j'ai pris beaucoup de notes pour ne rien oublier, donc je vais aller dans mes notes. Ok, donc Dieu prépare depuis 2000 ans ceux et celles qui vont devenir son épouse. Ça veut dire que si vous êtes assis ici aujourd'hui, Dieu est en train de vous préparer parce qu'il vous appelle à être son épouse. Vous devez le réaliser, vous n'êtes pas des chrétiens, simplement des chrétiens comme cela. Dieu veut vous préparer et vous façonner pour être son épouse. Maintenant, comprenez que la Bible dit que son épouse, l'épouse qu'il vient chercher, c'est une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et que son épouse, selon Éphésiens 5, est lavée par l'eau de la parole constamment. Elle est préparée, elle est sanctifiée. Et si l'on voit, et je ne vais pas aller dans ce message-là, mais si l'on voit le rituel, le cérémonial qui existait lors des mariages juifs, qui sont à la représentation spirituelle du mariage spirituel qui va exister dans les cieux, nous réalisons que Dieu ne prend pas ce mariage à la légère et que lorsque l'épouse était mariée à l'époux, ce n'était pas n'importe quelle épouse, c'est une épouse qui était extrêmement préparée. Donc ne pensez pas que simplement venir à l'église et vivre une petite vie de chrétien ou de vivre comme vous voulez ou comme vous le sentez le fera. Pour parler comme les jeunes, ça ne le fera pas. Il faut être très sérieux avec ces choses. Les paraboles ne sont pas des illustrations imaginaires, des contes ou des histoires. Les paraboles sont des choses que Jésus voulait dire aux gens de l'époque, mais qu'ils ne pouvaient pas recevoir s'il le disait dans ses mots à lui. S'il le disait tel quel, il ne pouvait pas le recevoir. Donc, Jésus disait des choses extrêmement vraies. Les paraboles ne sont pas des choses fausses. Ce ne sont pas des contes. Très important que vous compreniez ça. Ce sont des choses extrêmement vraies à propos du royaume de Dieu, à propos de la vie, de la mort, de l'enfer, du ciel, de ceux qui sont appelés, de ceux qui sont élus, de ceux qui ne seront pas appelés. Et énormément d'autres choses. Et beaucoup de thèmes sont développés dans les paraboles, mais ce sont toujours des choses extrêmement vraies qui nous donnent un éclairage sur le ciel, un éclairage sur le royaume de Dieu, un éclairage sur l'au-delà. Pensez à Lazare, l'homme riche, et Lazare, le pauvre. Okay? Pensez à toutes ces paraboles. Elles nous donnent une véritable explication sur des choses spirituelles. Sans ces paraboles, nous n'avons aucun accès à ces choses spirituelles, mais par ces paraboles, nous pouvons les comprendre. Hein? Donc Dieu prépare son épouse, et parce qu'il va y avoir un mariage au ciel, Dieu prépare un festin. Alors faites-moi un sourire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et vous savez, moi, quand je pense au festin que Dieu prépare, ça me fait plaisir. Vous dites, parce que j'aime manger. Probablement. Mais pas pour ça. Ça me fait plaisir parce que j'aime les choses du ciel. J'aime penser aux choses du ciel. Parfois, je parle tellement et je pense tellement aux choses du ciel, à la maison et dans nos temps de prière, que mon petit Louis me dit, j'aimerais être déjà au ciel. Alors, je suis obligée de ralentir un peu sur les bonnes choses du ciel, parce que je me dis, le jour où il va être triste par les choses de la vie, il va vouloir aller vite fait au ciel. Et on a besoin de terminer notre travail sur terre avant d'aller au ciel. Mais voyez-vous, lorsque l'on pense aux choses du ciel, je me mets vraiment dans les chaussures de Paul. Paul qui avait une autre vie que la nôtre. Paul qui était lapidé, Paul qui était persécuté, Paul qui était insulté, etc. Paul disait, je ne sais que des deux lequel choisir. J'ai le désir de rester sur terre, d'accomplir ma destinée, le plan de Dieu pour ma vie, mais j'ai le désir aussi de partir et d'être au ciel, ce qui me serait de bien plus préférable. Donc j'aime les choses du ciel. Et nous devons nous accrocher et nous attacher aux choses du ciel. Mes amis, il n'est pas une chose mauvaise, il n'est pas une chose folle que d'avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Vous devez avoir les pieds sur terre, mais vous devez toujours avoir la tête dans le ciel. Vous devez penser aux choses du royaume. Vous devez être enthousiasmé par les choses du royaume. Les choses du royaume doivent vraiment faire partie de votre vie, de votre quotidien. Vous devez penser au ciel. Vous devez penser au festin. Vous devez penser à la vie que vous allez avoir là-haut. Vous devez penser à la maison que Dieu vous prépare. Vous devez penser aux récompenses que vous allez avoir. Certains auront des récompenses. D'autres n'en auront pas. D'autres, la Bible dit, seront sauvés comme par le feu. Juste sauvés. Hop. Sans rien, juste sauvé. Mais d'autres, ils auront des récompenses. Vous savez, les récompenses, je fais une parenthèse, là je n'avance plus du tout dans ma parabole, mais bon. Vous savez, les récompenses, vous savez, parfois quand on pense à une récompense, à des choses qui nous sont, certaines choses qui nous sont dites dans la Bible, de ce que ceux qui auront enseigné la foule brilleront et toutes ces choses, on pense que notre récompense, ça va être un diamant sur notre tête. Mais je peux vous assurer que les récompenses qui seront au ciel, seront bien plus qu'un diamant ou un saphir ou 100 saphirs ou 1000 diamants autour de notre tête. Ce sera beaucoup plus que ça. Ce sera très différent de cela. Ça, c'est une chose merveilleuse, gloire à Dieu. Mais les récompenses que Dieu prépare à son peuple qui aura payé le prix dans sa vie, par les sacrifices, par la prière, par l'obéissance, par le don et par tout ce que Dieu lui aura demandé. C'est les choses que Dieu nous demande à nous ne sont pas les mêmes choses que Dieu demande à d'autres personnes en Inde. Par exemple, d'autres personnes en Inde, en Chine, peuvent être lapidées, peuvent être trucidées, peuvent être des victimes, enfin, comment dire, des martyrs. Nous ne sommes pas des martyrs. Ce n'est pas pour autant que nous serons moins récompensés. Nous vivons dans un autre temps, dans une autre sphère, dans un autre domaine, dans un autre pays. Il n'empêche que les exigences et les choses que Dieu nous demande restent les mêmes. Et Dieu nous récompensera en fonction de ce qu'il nous a donné et aussi en fonction de ce que nous avons appris et mis en pratique. Celui qui a reçu beaucoup sera aussi beaucoup demandé. Amen. Et donc les autres personnes, les gens qui sont dans d'autres pays ou qui subissent, c'est pourquoi nous devons prier pour eux, mais qui subissent des martyrs, qui subissent des choses qui sont très difficiles, auront aussi leur récompense. Et donc ce sera en fonction de l'obéissance et des choses que Dieu nous a demandées aux uns aux autres. En tout cas, pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Parce que je veux que vous pensiez aux choses célestes. Parce que les choses célestes sont véritablement un moteur. Sont véritablement un moteur dans nos vies. Il y a la carotte, il y a véritablement la carotte et le bâton. Hein. Il y a deux choses qui sont un moteur, et qui doivent être un moteur dans votre vie. L'enfer et le ciel. Parce que l'enfer est réel. Maintenant, je réalise que peu de gens croient dans l'enfer. Je vais le dire en demandant pardon à Dieu. Nous croyons peu en l'enfer. Bien sûr que nous croyons dans l'enfer, mais nous ne croyons pas véritablement dans l'enfer. Parce que si nous croyons dans la réalité de l'enfer, telle que la Bible nous le dit, sûrement nos comportements seraient différents. Sûrement nos paroles seraient différentes et sûrement nos actions seraient différentes. Mais parce que le Dieu de ce monde aveugle même les chrétiens et les endort sur certains domaines, nous n'avons pas une véritable foi. Oh, nous croyons dans le ciel. Ce n'est pas difficile pour nous de croire dans le ciel. Nous croyons qu'il y a une vie après la mort, que nous allons aller avec Dieu. Mais croire que véritablement des gens, même des gens que nous aimons, vont partir en enfer, être éternellement séparés de nous, quelque part à l'intérieur de nous, nous ne le croyons pas. Nous pensons que Dieu est si bon. Mais vous allez voir dans la parabole, ici, vous allez voir que la parole de Dieu ne change pas, que Dieu est un Dieu de miséricorde, mais quand la porte sera fermée, il n'y aura plus de miséricorde, comme au temps de Noé. Je continue. Ok, donc Dieu prépare un grand festin, des fêtes, des noces, un repas, une célébration, des réjouissances. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, je vais entendre un grand Amen. Oh, gloire à Dieu. Ok, donc le Père envoie une invitation. Il envoie ses serviteurs. Et lorsqu'il est dit ici, au verset 4, il envoya donc, au verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités. Il envoie ici, parce que cela parle ici donc de l'Ancien Testament, il envoie ses prophètes. Il envoie ses prophètes parler au peuple, expliquer les voies du Seigneur. Il envoie ses serviteurs lancer l'invitation aux gens et au peuple en disant « Voici le chemin de Dieu, voici ce à quoi Dieu vous appelle, revenez à la repentance, revenez à Dieu. » C'est l'invitation que Dieu donne, ok? Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? Ils font face à un refus catégorique, ok? Donc il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Et vous voyez que ces gens-là ne donnent même pas d'excuses. Dans l'autre parabole, ils donnent des excuses, mais dans celle-ci, ils ne donnent même pas d'excuses. Ils ne donnent même pas de prétexte. Ils ne s'excusent même pas de ne pas honorer l'invitation. Extrêmement mal élevé, hein. Lorsqu'on vous invite et que vous ne répondez même rien, que vous ne dites rien. Ces gens sont totalement indifférents à ce que les prophètes, à ce que la parole de Dieu peut bien leur dire dans leur vie. Ils l'écoutent, mais ils en sont totalement indifférents. Amen. Donc, le roi est gracieux, parce qu'on sait que le Père est bon. La nature du Père, c'est d'être bon. Donc, qu'est-ce qu'il nous est dit? Le roi dit à nouveau à ses serviteurs, retournez, parce que probablement l'invitation n'a pas été bien comprise. Bien sûr que nous comprenons que cette invitation est une invitation au salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez compris cela? C'est une invitation à être sauvé, c'est une invitation à entrer dans la maison de Dieu, c'est une invitation à avoir part aux noces de l'agneau. Amen. Donc, il est écrit, il envoya d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Donc il insiste, il se dit, ils n'ont sûrement pas dû bien comprendre l'invitation. Je pense que dans la pensée de Dieu, qui n'est pas notre pensée, Dieu ne peut pas concevoir que sa créature, sa création qu'il a créée, puissent refuser les bonnes choses qu'il a préparées pour eux et elles. Mais nous savons, nous-mêmes d'expérience, que nous avons des gens que nous côtoyons, que les gens de l'Ancien Testament, que les gens qui ont côtoyé Jésus-Christ et les gens que nous connaissons aujourd'hui encore, sont des gens capables de dire non aux bonnes choses de Dieu. Il y a des gens qui disent non. Donc lui, il envoie donc à nouveau ses serviteurs et leur dit, donc, allez leur dire, et voici ce qu'il leur dit, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, c'est-à-dire il y a une abondance de bonnes choses pour vous, il y a une table vraiment qui est dressée pour vous, tout est prêt, venez aux noces. Verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons des gens ici qui n'écoutent absolument pas et qui ne veulent pas de cette invitation. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent cette invitation et plutôt que de venir à cette invitation, qu'est-ce qu'ils font? Je vous pose la question. Regardez dans votre Bible. Qu'est-ce qu'ils font? Allez, je vous aide, verset 5. J'enlèverai 3 points. Verset 5. Qu'est-ce qu'ils font ? Celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. Chacun retourne à son business. Parce que les affaires de ce monde et le fait de multiplier ses possessions, ses propriétés et ses finances, c'est bien plus intéressant que les choses spirituelles. C'est bien plus intéressant que d'aller dans une invitation, que d'aller à l'église, que d'aller louer et adorer le Seigneur, que d'étudier sa parole. C'est bien plus intéressant. Maintenant, ne pensez pas que cette parole-là n'est que pour les Juifs. Cette parole est aussi pour les gens d'aujourd'hui. Hein. Et nous devons faire attention, nous, chrétiens, nous qui voulons être les pousses de Christ, de ne pas laisser les choses de ce monde, les richesses. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, gagner de l'argent, créer des choses, c'est passionnant. C'est tellement passionnant et ça peut être tellement passionnant et enivrant que l'on peut facilement mettre Dieu au deuxième plan, au troisième plan et même au dernier plan. Parce qu'il y a quelque chose qui est grisant dans le fait de gagner de l'argent. Il y a quelque chose qui est grisant dans le fait d'acheter un appartement et puis après d'acheter une maison et après changer de voiture. Et que l'on passe à côté des choses spirituelles. Ils n'ont pas considéré l'invitation. Chacun est allé aux choses qui leur intéressent. Ils sont allés augmenter leurs possessions. Ils sont allés vivre pour eux-mêmes. Vivre selon la vie présente dans laquelle vivaient, sans jamais se préoccuper de la vie à venir. Et il y a énormément, et je dirais des millions de gens qui sont dans cette même condition dans cette nation de France. Des gens qui vivent l'instant présent et qui ne pensent pas une seconde qu'il peut y avoir quelque chose après la mort. Le roi est en colère. Le roi est en colère. Et le roi est en colère, non seulement parce qu'il y a des indifférents, mais en plus il y a des hostiles parmi ces gens. Et les hostiles sont ceux qui ont pris ses serviteurs, les ont saisis, outragés et tués. Ce qui représente les prophètes de l'Ancien Testament, mais ce qui représente aussi le traitement qui a été réservé à son fils. Et ce deuxième groupe-là qui a pris les serviteurs qui les ont outragés et tués, véritablement tués, c'est vrai qu'il y a des prophètes qui ont été tués, représentent, ces gens-là représentent les religieux. Et je répète encore une fois, et je veux le dire toujours et toujours, que la religion ce n'est pas la foi, que la religion est meurtrière et que la religion vient du cœur du diable. Dieu n'est pas religieux. Et nous ne devons pas être religieux et nous devons faire attention à l'esprit religieux, l'esprit de religion qui est un esprit de haine, qui est un esprit de jalousie et qui est un esprit de meurtre. Et donc là, il parlait des religieux qui ont tué. Le roi s'est mis en colère et il a prononcé une parole dure. Et cette parole, peut-être vous ne la comprenez pas. Mais je vais vous l'expliquer. Il est écrit au verset 7, « Le roi fut irrité, il envoya ses troupes. » Il envoya ses troupes. « Fit périr ces meurtriers-là et brûla leur ville. » Et l'on sait que 40 ans après la déclaration de Jésus-Christ, les troupes sont entrées dans Jérusalem et ont détruit Jérusalem, tué les gens et détruit le temple. C'était le jugement de Dieu. Mais voyez-vous, 40 ans avant, Jésus-Christ était en train de prophétiser ce qui allait se passer dans Jérusalem parce qu'ils avaient durci et raidi leur cou et leur nuque. Et c'était opposé à Dieu. J'aimerais que vous sachiez qu'il existe des jugements. Il y a des jugements sur le monde. Il y a des jugements sur des gens. Il y a des jugements sur des nations. Il peut y avoir même des jugements sur le peuple de Dieu. Et la Bible dit que le jugement passera par la maison de Dieu. Donc nous ne pouvons pas vivre simplement dans une atmosphère de bénédiction, mais nous devons comprendre les réalités spirituelles. Il y a des jugements parfois qui tombent. Et donc Jésus avait prédit ce jugement-là. Amen. Ok, nous continuons. À Après, donc, le roi est irrité et il dit à ses serviteurs, mes noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours. Et maintenant, c'est l'appel des gentils. Et c'est nous qui entrons en scène. Et nous pouvons dire gloire à Dieu pour cela, parce que le salut n'était pas simplement pour les juifs, et le salut est toujours ouvert pour les juifs. Amen. Mais que le salut a été ouvert aux païens que nous sommes. Amen. Les païens que nous sommes, que nous étions. Nous sommes devenus des croyants, des chrétiens. Amen. Donc, c'est l'appel des gentils et c'est là le début de l'Église. Parce que cet appel-là va commencer à partir de Actes, lorsque le Saint-Esprit va descendre sur l'Église et que Dieu va constituer l'Église. Maintenant, il est écrit. Donc, les noces sont prêtes, verset 8. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Amen. Ses serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Méchant et bon, et la salle des noces fut pleine de convives. Maintenant, les serviteurs ici, ce ne sont plus les prophètes. Ici, maintenant, ce sont les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, les prophètes, mais aussi tous les ouvriers, et en fait, toutes les personnes qui, dans le corps de Christ, sont appelées à gagner les âmes. Amen. Et vous savez que ce n'est absolument pas réservé aux cinq ministères, mais que nous avons tous été appelés à gagner les âmes à Christ. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez une chose. Nous parlons d'aller sauver les gens et d'aller gagner les âmes. Mais gagner les âmes à Christ, ce n'est simplement que donner une invitation. C'est simplement aller porter à quelqu'un une invitation. Donc ce n'est pas quelque chose de difficile, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas quelque chose qui devrait remettre en question toute votre réputation ou autre chose. Parce que le salut, c'est aller porter une invitation. Vous savez, en Inde, il y a une tradition, par exemple, pour les mariages. On n'envoie jamais une invitation par la poste, c'est très mal élevé. Les familles viennent, elles vont directement chez la personne et leur donnent à main propre l'invitation dans une très belle enveloppe pour assister aux noces. Et donc, souvent, les familles sont obligées d'aller voir, parce que les mariages sont toujours grands en Inde, énormément de personnes, et aller donner dans la main, en main propre, l'invitation. Eh bien, le salut, ce n'est rien d'autre que cela. Vous allez voir les gens que vous connaissez, vous allez voir les gens que vous côtoyez, vous allez voir vos familles et vous allez leur porter une invitation à faire partie des noces de l'agneau, une invitation à se joindre au festin que Dieu propose. Maintenant, ils en veulent ou ils n'en veulent pas, mais notre devoir à nous, c'est de les inviter. Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Donc tous nous sommes appelés à donner cette invitation. Maintenant, vous remarquerez que cette invitation a été donnée sans aucune discrimination. Il n'y avait dans cette invitation aucune discrimination. Il était dit, allez voir tout le monde. Et les serviteurs sont allés absolument partout. Ils sont allés dans les carrefours, dans les chemins, sur les routes. Ils sont allés partout distribuer cette invitation. Ça nous parle de notre rôle. Ça nous parle de notre appel, cela nous parle de notre devoir. Amen. Donc, ils sont allés donner l'invitation à tout le monde et la Bible précise une chose qui est très importante. Ses serviteurs allèrent dans tous les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Gardez cela quelque part dans le coin de votre pensée. Ok? Tous ces gens-là qu'ils sont allés voir, à qui ils ont donné l'invitation, représentent, parce que la salle des noces représente l'Église local. Tous ces gens à qui a été donnée l'invitation représentent l'Église de Jésus-Christ actuelle. Actuelle. L'Église passée, ceux des générations passées, mais aussi l'Église actuelle. Et donc représente toutes les églises locales. Et donc, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit qu'ils ont rassemblé tout le monde. Les bons et les méchants. Ok? Ce qui veut nous dire que l'église locale est composée de gens sauvés, est composée de gens convertis, est composée de gens qui se croient sauvés, des gens qui se pensent prétendument convertis, est composée de gens qui sont en train de changer et de faire un travail sur eux-mêmes. est composé de gens aussi qui refusent de changer. Parce qu'aujourd'hui, la porte de l'Église est ouverte à tous. L'Église universelle, l'Église locale, est ouverte à tous. Et dans la foule, nous ne sommes pas là pour distinguer qui est quoi et qui fait quoi, mais la foule est bien souvent une foule mélangée. Vous êtes avec moi? Donc, tout le monde est dans la salle des noces. La salle des noces représente l'Église locale. La salle des noces, bien sûr, représente aussi le festin que nous allons avoir au ciel. Mais c'est l'Église locale transposée au ciel. OK? Le roi... Le roi entra, verset 11, pour voir ceux qui étaient à table. Donc maintenant, tout le monde est rassemblé. OK? Et j'aimerais que vous sachiez... la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Et j'aimerais que vous sachiez qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire partie du festin. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire partie de cette invitation. Amen? Vous êtes avec moi. C'est une chose normale. Et c'est une chose souhaitable d'ailleurs. Donc là, tout le monde est rassemblé. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là, donc nous sommes dans le ciel, hein, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. » Dans cette dernière partie se trouvent les mystères que nous avons besoin d'élucider. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Il y a des questions qui se posent à nous. Le premier mystère, c'est que le roi voit un homme qui n'a pas son habit de noces. Le deuxième mystère, c'est que l'homme a la bouche fermée. Il y a deux choses, deux questions que l'on peut se poser. Qui est cet intrus? Qui est cet intrus? Pourquoi ne répond-il pas? Pourquoi n'a-t-il pas son vêtement de noces alors que c'est une exigence? Et quel est ce vêtement qui est exigé? Est-ce que vous voulez que je réponde à ces questions? OK. Premier mystère. J'aimerais que vous réalisiez cet homme qui est là, au milieu de la foule. Lorsque le roi entre, le roi voit tout de suite, il voit que la salle est pleine et il voit tout de suite celui qui n'a pas son vêtement. Alors que tous les gens qui sont autour ne réalisent pas et ne voient pas que cet homme n'a pas de vêtement. Est-ce que vous commencez à penser? Dieu voit tout de suite celui qui n'est pas revêtu, alors que les autres, avec leurs yeux humains, ne peuvent pas voir ceux qui sont revêtus et ceux qui ne sont pas revêtus. D'abord, en plus, Dieu ne nous appelle pas à juger. Dieu ne nous appelle pas à entrer dans la vie des gens. Dieu ne nous appelle pas à faire leur, aller dans leurs affaires à eux. Chacun est responsable de soi-même. Bien sûr, nous sommes là pour nous encourager les uns les autres. Dieu voit tout de suite alors que personne ne l'avait vu. Et maintenant le roi, parce que le roi est gracieux, le père est gracieux, il lui a pas sauté dessus comme ça, il vient vers lui et lui dit « mon ami, pourquoi, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Donc Dieu lui demande très gentiment, très gracieusement, quelle est la raison? Est-ce qu'il a une raison, quelque chose qui va pouvoir l'exempter, quelque chose qui va expliquer sa condition? Donc j'aimerais répondre au premier mystère. Cet intrus n'est pas Satan. Bien souvent les gens pensent, et les gens ont pensé, que cet intrus qui est entré dans la présence de Dieu, ça devait être Satan. Non, c'est une personne. Le mot-clé pour répondre à ce mystère, c'est que l'invitation a été donnée à tous. L'invitation a été donnée aux bons et aux méchants. Jésus-Christ a donné beaucoup de paraboles et il a parlé de la bonne terre et de la mauvaise terre. Il a parlé du bon grain, de la bonne semence qui est le blé et de la mauvaise semence qui est l'ivraie. Il a parlé des brebis et il a parlé des boucs. Et il a dit que tout le monde était assemblé. Mon message n'est pas particulièrement drôle, mais c'est une vérité de la Bible. Tout le monde était assemblé. L'ivraie et le blé, ensemble, dans le même champ. Les boucs et les brebis, dans le même champ. Mais il va y avoir un tri qui va être fait. Ici, tout le monde est et qui vont suivre les instructions de Dieu. Lui du fruit, c'est la bonne terre qui reçoit la semence de la parole de Dieu et qui est changée pour réaliser. Sont ceux qui vont écouter la parole et qui vont suivre les instructions de Dieu. Dans la bonne terre et la mauvaise terre, la bonne terre qui produit du fruit, c'est la bonne terre qui reçoit la semence de la parole de Dieu et qui est changée. J'aimerais que vous réalisiez, que vous compreniez la puissance de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance vous communique une nouvelle nature. La nouvelle nature, c'est ce vêtement que nous portons. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devons revêtir une nouvelle nature qui n'est pas la nature de la chair, qui n'est pas la nature de Satan, qui n'est pas la nature du péché, quand bien même nous sommes bien sûr imparfaits et que nous travaillons à nous améliorer, mais à une nouvelle nature. La Bible dit « Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Rencontrer Christ, ce n'est pas comme aller au cinéma. Inviter Christ dans sa vie, ce n'est pas comme une chose habituelle que vous faites dans votre vie de tous les jours. C'est une chose qui va et qui doit transformer votre vie. Et pas seulement votre vie aujourd'hui, votre vie jusqu'à vos cheveux blancs, jusqu'à ce que vous quittiez cette terre. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Je nais de nouveau. Je sors du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière. Une nouvelle nature m'est communiquée. Un nouveau royaume m'est donné. Un nom m'est donné. Un père m'est donné. Une vie nouvelle coule à l'intérieur de moi. Et même si je ne suis pas parfait, j'ai reçu une nouvelle naissance. Alléluia. Les bons dans la parole de Dieu et selon ce que Jésus a dit dans ses paraboles sont ceux qui écoutent la parole, mais comme je l'ai dit ce matin dans Jacques 2, qui ne se bornent pas à l'écouter, mais qui la mettent en pratique et qui changent et qui expérimentent un changement qui vient de Dieu et du Saint-Esprit dans leur vie. Alléluia. Les bons sont cette catégorie de gens qui ne vont pas imaginer Dieu. Je vais m'expliquer. Beaucoup de gens se font leur propre représentation de Dieu. Comme si Dieu était de la pâte à modeler. Il est comme ça. Parce que j'ai besoin qu'il soit comme ça. Parce que je pense que Dieu ferme les yeux sur ça. Donc je pense que Dieu est comme ça. Ou bien il est comme ça. Parce que ça m'arrange que Dieu soit comme ça. Vous savez, les gens aujourd'hui, vous leur parlez? Vous leur parlez du ciel, vous leur parlez de l'enfer, et qu'est-ce qu'ils vous disent? Oh, mais Dieu ne peut pas être si méchant. Dieu ne va pas envoyer les gens en enfer. Ils se font leur propre représentation de Dieu. Mais leur représentation de Dieu est erronée. C'est comme bâtir sa maison sur le sable. J'imagine que Dieu est comme ça. Je pense que Dieu va penser comme ça. Dieu ne peut pas penser différemment de moi parce que je pense comme ça. Oh, Dieu ne trouve pas ces choses si importantes. Dieu ne trouve pas ces choses si graves. Etc., etc., etc. Je vais vous dire à quoi conduit cette pensée. Cette pensée conduit à faire de Dieu la propre représentation de ce que je voudrais que Dieu soit, mais Dieu n'est pas comme cela et Dieu ne va pas être plié ou ployé ou changé par rapport à ce que moi je pense de Dieu. Dieu reste le même Dieu qu'il est dans la Bible. Et moi je risque de me prendre un mur. Moi je risque de faire face à une grande déception et j'espère pas à une grave déception qui serait fatale et trop tard, parce que je me suis fait l'idée de Dieu que je voulais. Maintenant, dans Exode 20, nous avons les 10 commandements. Commandement numéro 1, il est écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Amen. Commandement numéro 2, « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. » En d'autres termes, tu ne te feras pas ton idée à toi de Dieu, mais tu te fondras et tu t'appuieras entièrement sur ce que la parole de Dieu dit et explique et enseigne et révèle de ce que Dieu est. Beaucoup de gens passeront à côté des noces de l'agneau parce qu'ils se sont fait leur propre représentation de Dieu et ils n'ont pas pris la parole de Dieu au mot. Ils se sont fait leur propre évangile, leur propre parole, leur propre salade. Et ils ont pensé, mais tout cela est bon, tout cela est bien, tout cela doit sûrement être juste. Et ce ne sera pas juste parce que seul le modèle de la parole de Dieu demeurera. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce soir? Nous devons faire attention. Jésus revient bientôt et Jésus prépare son église. Je le répète, il viendra chercher. Il ne viendra pas chercher une église souillée. Il ne viendra pas chercher une église entachée. Il ne viendra pas chercher une épouse infidèle. Il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une épouse préparée par la parole de Dieu, lavée par la parole de Dieu, et qui sera digne de son Fils qui a payé le prix à la croix. Ça montre qu'il va y avoir une sélection. Ça montre que nous, quand l'apôtre Paul a dit « Veillez et priez », l'apôtre Paul ne plaisantait pas. Lorsque l'apôtre Paul a dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », l'apôtre Paul ne plaisantait pas. Cet homme qui était dans la salle du trône, il portait son propre vêtement. Parce qu'il n'a pas considéré que c'était utile de se revêtir du vêtement de noces qui était exigé et obligatoire pour entrer dans la salle des noces. Est-ce que ça vous parle ce soir? Ce message est tellement important. Je vous parle de secrets, de mystères du royaume du ciel. Il n'a pas accepté de porter la robe qui était exigée. Maintenant, je vais vous dire quelle était la robe exigée et tout le monde tourne dans Apocalypse 19. Voici la robe qui est exigée pour les saints. Oh, ce message est difficile, il est dur, il est strict, j'en conviens. J'en conviens parce que je sais quels sont les versets qu'il me reste à lire. À partir du verset 6, est-ce que tout le monde est dans Apocalypse 19, verset 6? Si vous y êtes, dites-moi Amen, Alléluia. Ok. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse. C'est pas merveilleux cela? La voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, Et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Où est-ce que nous sommes là? Exactement au même point que j'étais en train de vous enseigner dans Matthieu 22. Nous sommes dans les noces de l'agneau. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. En d'autres termes, le vêtement qu'il vous faudra porter pour avoir accès aux noces de l'agneau, c'est le vêtement de la nouvelle naissance qui est aussi le vêtement des œuvres justes des saints. Tout le monde tourne dans Jacques. Jacques qui est après Hébreu. Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver de toutes les souillures du monde. Mais ce n'est pas fini. Parce que le passage le plus important se trouve dans le chapitre 2 et au verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?»« Que sert-il à quelqu'un de dire s'il a la foi mais qu'il n'a pas les œuvres ?»« Cette foi peut-elle le sauver ?» Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour et que l'un d'entre eux vous dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Et maintenant c'est ça qui est important. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres ». Montre-moi ta foi sans les œuvres. Vous ne pouvez pas montrer votre foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le vêtement, la robe qui est exigée pour entrer dans les noces de l'agneau, c'est le vêtement du salut, n'est-ce pas? C'est la justice de Dieu qui nous couvre. Par le sang de Jésus, nous sommes recouverts et nous avons accès auprès du Père. C'est le vêtement de la nouvelle naissance dont j'ai parlé il y a quelques instants, n'est-ce pas? Mais c'est aussi l'œuvre, le vêtement des œuvres des saints, le fin lin. Nous devons être revêtus du fin lin, les œuvres justes des saints. Ça veut dire qu'on ne peut pas être un croyant sans avoir des œuvres. Ça veut dire que notre vie doit parler de notre foi. Ça veut dire qu'on ne peut pas simplement dire « je suis chrétien, oh je viens à l'église » et que notre vie ne transpire pas les choses de Dieu, que notre vie ne porte pas un sacrifice, que notre vie ne porte pas une consécration. Lorsque Jésus est venu vers ses disciples, il leur a dit « viens, toi et suis-moi ». Renonce à toi-même, porte ta croix. Le vêtement de fin lin, qui est le vêtement des œuvres justes des saints. On ne peut pas être saint et ne pas faire d'œuvres. Et quand je parle œuvres, je ne suis pas en train de parler obligatoirement d'œuvres caritatives. Mais je parle de ce que votre vie montre le sceau et le signe de Dieu. Parce que vous ne vivez plus pour vous-même, mais Christ vit en vous. Ça ne vous empêche pas d'être marié, ça ne vous empêche pas d'avoir des enfants, ça ne vous empêche pas de partir en vacances, ça ne vous empêche pas d'avoir du bon temps, mais votre vie appartient à Christ et vos priorités sont celles de Christ. ce ne sont pas des priorités matérielles et de multiplication de nos possessions. Bien sûr que cela va avec, mais c'est secondaire. Mais Christ est la priorité. Ça, c'est le lin fin. L'homme, la Bible dit, a eu la bouche fermée. C'est le deuxième mystère que j'aimerais élucider. Pourquoi cet homme n'a pas pu parler? Cet homme n'a pas pu parler parce qu'il n'avait pas la justice de Dieu. Parce qu'il n'était pas recouvert du vêtement de la justice de Dieu. Maintenant, lorsque vous êtes recouvert du vêtement de la justice de Dieu, Jésus est votre avocat. Et Jésus vous défend et il intercède pour vous. Et il parle pour vous. Mais cet homme n'avait aucun avocat. Il ne pouvait pas plaider sa cause. Il n'avait rien pour sa défense. La conséquence de cela a été que notre grand Dieu miséricordieux, qui est encore miséricordieux et qui sera encore miséricordieux jusqu'à son retour, et jusqu'au jugement, jusqu'à ce que la porte soit fermée. Mais comme au temps de Noé, lorsque la porte sera fermée, Dieu ne changera pas un iota de sa parole. Ce n'est pas et ce ne sera plus ce que nous pensons. Les conceptions erronées et propres et personnelles que nous pouvons avoir sur Dieu. Le fait que nous pensons que Dieu est trop bon pour que des gens qui ne l'aient pas voulu, qui ne l'aient pas accepté aillent en enfer. Toutes ces choses n'auront plus aucune importance. Lorsque la porte sera fermée, lorsque le temps de la grâce sera terminé. Et le temps de la grâce était terminé pour cet homme. Il avait eu l'occasion de revêtir les vêtements de noces, mais il n'en a pas voulu. Il a fait ce qu'il a voulu. Et là, Dieu qui était miséricordieux lorsqu'il a vu qu'il n'était pas revêtu et qu'il n'avait pas de quoi défendre sa cause, a dit, et on revient dans Matthieu 22, verset 13, « Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés et nous sommes absolument tous appelés. » Et je ne parle pas simplement de nous ici, mais je parle de toutes les personnes qui sont sur la terre, de toute cette nation de France, auquel Dieu nous a appelés, de sauver, que nous avons, Dieu nous a donné ce grand mandat, qui nous devons prêcher la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous devons connaître les choses du royaume. Nous devons comprendre les réalités spirituelles. C'est très important. Et nous devons nous assurer que nous avons revêtu la nouvelle naissance, que nous vivons bien cette nouvelle vie et nous avons cette nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées, n'est-ce pas? Et nous ne devons pas nous faire l'idée propre de Dieu et de ce que nous pensons que Dieu va faire. Nous devons cadrer nos idées et nos pensées. Elles doivent être encadrées par la parole de Dieu. Maintenant, le salut. Il est écrit, celui qui croira, première condition, et qui sera baptisé, deuxième condition, sera sauvé. Croire, c'est entrer dans la foi, avoir foi en Dieu, celui qui croira. Mais ce n'est pas suffisant. La foi n'est pas suffisante. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême, je n'ai pas besoin de donner un cours sur le baptême, mais le baptême, c'est le fait d'entrer dans la vie du disciple. D'entrer dans la vie du disciple, de ne plus faire ce que nous voulons faire ou ce que notre chair nous demande de faire, mais de suivre les ordres, les instructions, les commandements de Dieu, qui sont des bons commandements pour nous, qui ne sont pas des mauvaises choses pour nous, mais c'est d'entrer dans cette vie de disciple. La Bible dit « Celui qui croira et qui sera sauvé, pardon, qui sera baptisé sera sauvé. » Matthieu 24 déclare que l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais sachant que Matthieu 24 est vraiment une prophétie sur les derniers temps que Jésus a donné. Donc l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc un, croire, deux, être baptisé, c'est-à-dire entrer dans cette vie de disciple, trois, persévérer jusqu'à la fin. Et c'est là qu'il va y avoir une grande chute et une grande séduction qui va entrer. Parce que les gens vont croire, les gens vont entrer dans cette vie de disciple, mais ils ne vont pas persévérer jusqu'à la fin. Il va y avoir des tentations, il va y avoir des loups, il va y avoir des séductions, il va y avoir toute espèce de choses. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Paul devra ajouter, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et maintenant je termine par un passage qui n'est pas facile. Mais j'aimerais que tout le monde tourne, mais un passage qui est très important dans Hébreux 6. Au verset 7. Oh mon Dieu. Jesus. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes prêts pour ce passage? Hébreux 6, verset 7. On va le lire rapidement et après on va le lire doucement. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Lorsque l'on va rapidement sur ce verset, on pense que c'est une allégorie, on pense que c'est une image, et cela, on va rapidement et on ne réalise pas la profondeur de ce verset. On va doucement. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie c'est l'eau de la parole, la pluie c'est le Saint-Esprit, la terre c'est votre cœur. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, la pluie tombe sur vous tous les dimanches, parce que la parole de Dieu vous est prêchée. Et donc, vous êtes une terre abreuvée. Si, on répète, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe sur elle, souvent, produit une herbe, elle produit cette terre, elle produit, elle engendre, elle produit une herbe qui est utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe, donc cette terre, qui est abreuvée par la parole de Dieu, elle va participer à la bénédiction de Dieu. Elle va participer à l'avancement du royaume de Dieu. Elle va être utile à son maître. Dieu est le maître. Ok ? Mais si cette terre, et je reprends, qui est une terre abreuvée par la pluie qui tombe sur elle, mais si cette terre produit des épines, c'est-à-dire rien de bon, des chardons. Ça veut dire que si les gens ne traitent pas leurs problèmes, la parole de Dieu leur est prêchée dans toutes les langues, dans toutes les formes, par toute espèce de prédicateur, et c'est la même parole que nous prêchons. Soyez sanctifiés, mettez votre vie à part, débarrassez-vous des offenses, pardonnez, donnez à Dieu, avancez avec Dieu, servez Dieu de tout votre cœur, n'ayez pas un esprit de division, etc., etc., etc. Renoncez aux œuvres mortes, renoncez à la sorcellerie, renoncez aux œuvres des ténèbres, etc., etc. C'est toujours le même message. Si cette terre qui a reçu ce message encore et encore continue à produire des épines et des chardons, c'est-à-dire pas de changement et rien de bon, la Bible dit qu'elle est réprouvée et près d'être maudite.
et on finit par y mettre le feu. Et vous comprenez ce que cela veut dire lorsque l'on parle du feu. Alléluia. Ça, c'était une parabole. Vous en voulez d'autres? Fermons nos yeux.